France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi sur France Culture à 9h05, réplique, Alain Finkielkraut.
Pourquoi réplique? Parce que, selon les mots de Fontenelle, on s'accoutume trop dans la solitude à ne penser que comme soi. Deux invités chaque semaine nous aident à sortir de nous-mêmes et à déchiffrer le présent.
Qu'est-ce qu'un bon professeur aujourd'hui? Comment résister à la pression? Rester humain dans une institution qui scrute, juge? Donner du sens à l'enseignement? Comment transmettre la flamme? On en débat dans Réplique, ce samedi dès 9h05 et sur franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par l'intrusion de manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avant-hier lors d'une manifestation parisienne du 1er mai, alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénonçait dès hier soir une attaque de l'hôpital. Les témoignages et les vidéos de la scène semblent aller dans le sens d'une intrusion sans violence, avec des manifestants fuyant une charge des CRS et des tirs de gaz lacrymogène. Une enquête est en cours. Hier, tous les gardés à vue dans cette affaire ont été libérés quand les représentants politiques s'en prenaient, eux, à Christophe Castaner, le sommant de s'expliquer. Certains, comme l'écologiste Yannick Jadot, demandent une commission d'enquête. Après 4 années de lutte, la scierie d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord est reprise par British Steel, un groupe sidérurgique britannique. Et c'est un soulagement pour les 270 salariés dont les postes devraient être sauvés. Ils restent toutefois prudents et feront le bilan, disent-ils, dans un an. Dans l'actualité internationale, Madrid refuse de remettre Leopoldo López aux autorités vénézuéliennes qui réclament son arrestation. Leopoldo López est un opposant vénézuélien qui s'est réfugié mardi dans l'ambassade d'Espagne à Caracas lors de manifestations. Il avait échappé à sa résidence surveillée et était apparu dans la foulée aux côtés du chef de file de l'opposition au Venezuela, Juan Guaido. Au Soudan, des centaines de milliers de manifestants se sont encore réunis hier soir à Khartoum, la capitale. Un rassemblement devant le ministère de la Défense à l'appel d'une coalition d'organisations d'opposition. Cette coalition réclame la mise en place d'un gouvernement de transition civile. Les négociations avec les militaires au pouvoir coincent notamment sur le choix de la personnalité qui va diriger cette administration au Soudan. Et puis notons cette offensive de Facebook contre plusieurs personnalités controversées. Le groupe va supprimer définitivement les comptes et les pages du leader noir américain Louis Fakharan aux propos régulièrement antisémites. Idem pour le complotiste Alex Jones. Au total, 7 personnes, 7 organisations sont visées par Facebook.
Nouveau sur France Culture, l'épingle du jeu. Nouvelle émission de jeux littéraires et d'humour avec sa joyeuse bande des épinglés rassemblée autour d'Odile Conseil. Jouons avec les mots, la grammaire, les références littéraires et même le langage des réseaux sociaux sur un air de fantaisie. À chaque rendez-vous, un thème et son grand invité. Venez découvrir l'épingle du jeu en public lors du festival Imagine au Centre Pompidou à Paris les 11 et 12 mai à 20h. Gratuit sur réservation maisondelaradio.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, l'heure de retrouver Toufik Hakem, un réveil culturel ce matin consacré au manga.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel, c'est tous les jours tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. Tous les vendredis, on traite de l'actualité de la bande dessinée et ce matin, c'est un spécial manga avec l'autrice japonaise ou la mangaka Kan Takahama et la participation de Sonia Deschamps du magazine Kazmat qui revient tout juste d'un voyage au Japon où elle est allée à la rencontre des sumo. Elle nous fera sa petite sélection des bandes dessinées japonaises, des mangas donc sortis dernièrement et qu'il faut absolument lire. Ce réveil culturel a été préparé avec la complicité de Corinne Amar, de notre stagiaire Maël Ray, Vincent Abouchard est à la réalisation et à la prise de son ce matin, Mathieu Tourin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Et aujourd'hui, l'interview de mon invité Kan Takahama sera traduite, une traduction simultanée par Corinne Quentin. Vous aussi, bonjour, merci d'être venu. Bonjour Kan Takahama, vous connaissez bien la France pour y avoir séjourné à plusieurs reprises et surtout pour avoir étudié son histoire de près, car vous racontez à travers vos bandes dessinées la découverte du monde occidental par les Japonais au 19e siècle. Par exemple, dans le premier tome de la série La Lanterne de Nyx, qui vient de sortir en France chez Glénat, vous revenez sur cette époque où la France faisait rayonner sa puissance jusqu'au Japon, grâce à l'exposition universelle de 1878, époque qui coïncide d'ailleurs avec l'ouverture au monde du Japon après 2 siècles d'isolement. Pourquoi cette période vous intéresse d'une manière presque exclusive? Toutes vos bandes dessinées ne parlent que de ça.
Effectivement,
on me pose de temps en temps cette question.
この作品のテーマというのが悪い時代の後には必ずいいことがある。il y a des périodes difficiles
mais qui sont toujours suivies de quelque chose qui va mieux après.
物語の最初に1944年第二次大戦の本当に終わる直前。On commence le livre vraiment en 1944 dans une période difficile.
Une période qui a été terrible pour le monde.
Et le personnage,
donc c'est une personne âgée,
qui, pour
rassurer sa petite fille qui est effrayée par ce qui est en train de se passer,
décide
de lui raconter une période qui s'appelle la Belle Époque et qui était une époque magnifique avant cette période difficile qu'elles sont en train de vivre.
Et on revient sur cette fameuse période, c'est-à-dire la fin du 19e.
Oui,
de cette période jusqu'au début du 20e.
Un
moment où la technologie commence à se développer, les gens sont plus libres, il se passe plein de choses nouvelles, les artistes aussi ont des activités multiples, c'est une époque florissante.
Et dans La Lanterne de Nyx, l'héroïne, c'est une jeune orpheline à Nagasaki, puisque l'histoire se passe à Nagasaki, elle s'appelle Mio, et elle a un don. Elle a un don de voir les propriétaires passés et même futurs des objets qu'elle touche. Alors, le premier tome commence par ce magasin. On voit cette Mio, cette jeune orpheline que sa tante accompagne jusqu'à un magasin où elle va travailler. On va faire la connaissance de cet étrange marchand qui ramène des objets d'Europe. Et racontez-nous d'abord Mio, cette jeune orpheline. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette héroïne?
Il y a des aspects d'elle qui me ressemblent. Quelque chose qui ressemble à ce que j'étais quand j'étais plus jeune.
Et
je pense que beaucoup de lecteurs pourront s'identifier à cette jeune fille. Penser qu'elle a beaucoup d'aspects de leur propre jeunesse. Je pense qu'elles peuvent vraiment se retrouver, surtout les lectrices, dans ce personnage.
Et puis, quelle belle idée pour cette fille, cette Mio, non seulement peut deviner tous les gens qui sont passés avant elle et qui ont touché l'objet avant elle, mais elle peut aussi dire quelles sont les autres personnes qui vont avoir affaire à un moment de leur vie à cet objet. C'est une manière pour vous, bien sûr, de parler de plusieurs époques, de pouvoir voyager dans le temps et dans l'espace.
Oui.
C'est vrai que cette jeune femme qui pense ne rien savoir faire se découvre quand même une qualité très particulière. Et en fin de compte, elle va pouvoir aussi développer des choses qui sont négatives et les rendre positives. Alors, on va découvrir quand même qu'au cours de l'histoire, cette capacité qu'elle a de lire dans les objets va être quelque chose d'un peu particulier et se révéler pas tout à fait ce que l'on croyait dans le premier volume.
Ah, parce que nous, on a reçu que le premier volume. Il n'y a que le premier volume qui vient de sortir en France.
Oui.
6巻まで続きますけど。
En fait, il y a 6 volumes dans cette histoire.
先のネタバレになったらいけないので、あんまり言えないんですけど。
Je ne veux pas trop vous en raconter, puisqu'il faut laisser découvrir au cours de la lecture.
がどんな風に展開していくのか。Voilà,
je vous laisse voir ensuite comment va se développer cette particularité qu'elle a.
Alors, d'où est partie cette idée Ken Takahama? S'il fallait parler de la lanterne de Nyx, puisqu'on a le premier tome, alors on voit bien qu'il y a un personnage très attachant, cette jeune Mio de Nagasaki avec ce don particulier. Il y a ce grand magasin qui est plus un cabinet des curiosités. Il y a tous ces objets qui viennent d'Europe. Et c'est nouveau, on sent qu'une histoire d'amour va se mettre en place, et pourtant la trame, elle est historique, c'est très documenté, vous avez vraiment travaillé le caractère historique de cette histoire.
そうですね。あの、どんな物語なのか、まあ、私の言葉で紹介すると。
Quant à l'histoire, je dirais... qu'il y a toujours deux choses ou plus pour chaque personnage. Elle a par exemple ce don, mais elle a aussi d'autres éléments qui vont faire un aller-retour entre la fantaisie et la réalité.
On
commence aussi avec ces objets qui viennent d'Europe et qui représentent des choses extraordinaires, mais on va aussi petit à petit se rapprocher de l'histoire japonaise. Il y aura aussi des histoires d'amour, mais avec des vagues. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour entre deux personnes, mais il y a aussi les personnages autour qui vont avoir des relations entre eux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'ensemble des 6 livres.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Résumer cette série comme je l'ai fait, Ken Takahama, en disant que c'est une mangaka qui est intéressée par la culture française et qui, à travers la lanterne de Nyx, cette série explore la découverte du monde occidental par les Japonais, c'est peut-être réducteur pour vous, non ?
Non, vous avez raison. Globalement, c'est cette histoire-là quand même.
À partir
des découvertes de l'Occident, le Japon qui se transforme. Et ensuite, on va de Nagasaki à Paris. Mais c'est aussi l'histoire donc du mûrissement de Mio. C'est l'histoire de cette jeune fille.
On apprend en lisant La Lanterne de Nyx, c'est qu'à cette époque-là, cette période Meiji, Nagasaki était une ville plus prospère, en tout cas sur le plan culturel, plus prospère que la capitale, que Tokyo.
Nagasaki, c'était vraiment la ville par laquelle la culture étrangère pénétrait au Japon.
Mais petit à petit,
justement, c'est l'époque qui correspond à peu près à ce passage donc, du centre de Nagasaki vers Tokyo. Petit à petit, où il va y avoir une transformation et Tokyo va prendre cette place. Nagasaki va perdre ce rôle de ville culturelle japonaise.
Et ensuite, en 1945,
c'est cette ville-là qui sera bombardée avec une bombe atomique.
Ken Takahama, vous êtes né en 1977, vous avez fait les Beaux-Arts. Comment êtes-vous arrivé dans l'univers des mangas? Est-ce que ça a été une envie qui date de cette période-là, de la période où vous étiez aux Beaux-Arts, ou avant ou après?
私は現代美術のコースに所属してたんですけど。
Donc j'étais dans un cours, enfin dans un cursus de beaux-arts, art contemporain.
もちろん途中まではインスタレーションをやったりとか。
Et pendant mes études, j'ai fait des installations.
金工をやったりとか。
J'ai fait diverses choses qui travaillaient pour travailler, mais dans l'art contemporain.
映像をやったり。
J'ai fait aussi des images.
表現方法をいろいろ模索しているうちに。
J'ai un peu essayé toutes sortes de médium.
あまり大きなことはできないなと。やっぱりこの机の上に、手の中に収まるサイズのものが。
Mais je me suis aperçu que, en fait, ce qui me convenait le mieux, c'était quand je me retrouvais face à une table et que j'étais dans l'espace limité d'une feuille de papier.
一番やりやすい。
Et c'était ce qui me convenait le mieux.
でちょうどその頃ですね、私が大学にいた頃は、
Et quand j'étais à l'université, justement,
現代美術のコンセプトの中に政治的なものを盛り込むというムーブメントが起きていた頃で、
c'était, il y avait bien sûr beaucoup de mouvements qui liaient la politique à l'art.
私はそのあんまり日本にいてのほほんと平和に暮らしていたから政治的なメッセージがなくて、
Mais à l'époque, je ne trouvais pas encore ma voix dans ce genre d'expression artistique pour des messages politiques.
なんとなくこの場所ではないんじゃないかと思い始めました。
J'ai commencé à me dire que peut-être je n'étais pas tout à fait dans le lieu qui me convenait.
その頃に担当教官に相談をしたら、
Donc, j'ai discuté de cela avec un de mes professeurs.
自分のやりたいこと、例えば漫画で卒業制作
を作ってもいいし、de faire un travail donc de un mémoire pour sortir de l'université autour du manga.Et donc, mon professeur a accepté que je travaille autour du manga.
Je vous pose cette question parce que, franchement, votre style est un style qui n'est pas du tout répertorié chez les grands auteurs de manga, Ken Takahama. Vous utilisez effectivement le découpage manga, mais pour le dessin, c'est un trait plus réaliste qui vous rapprocherait plutôt d'un Taniguchi qui lui-même était plus proche de la ligne claire franco-belge que de celle de ses contemporains japonais.Comment définiriez-vous votre dessin et comment vous imaginez votre place dans le monde des auteurs et des autrices de manga?
D'abord, quand j'ai commencé à faire des mangas, comme je n'avais jamais encore, je suis vraiment rentrée de plein pied, mais sans avoir pratiqué le manga avant de publier.
アシスタントをするような先生もいなかった。
Par exemple, je n'ai pas été assistante d'un autre auteur de manga.
Est-ce que vous avez aimé un autre mangaka? Est-ce que vous avez été influencé par un autre dessinateur?
雑誌は見てましたけどね、特別誰かということもなかったんですよね。
Pas particulièrement. Je lisais quelques magazines de manga, mais pas de personne particulièrement qui m'aurait inspiré.
Quand je dis que votre dessin est plus réaliste que les auteurs de manga, vous entendez ce que je veux dire par là?
そうですね。それはなぜかっていうと、
Oui, je suis d'accord.
漫画のメソッドがわからなかった。
Parce que justement, je ne connaissais pas les méthodes de manga.
デッサンの延長で書き始めた。
J'ai plutôt travaillé après dans le prolongement du dessin que j'avais appris à l'université.
で、だんだんその後にもう少し漫画らしくしようと。
Je me suis plus adapté à ce qu'est le dessin du manga, mais sans jamais sortir de mon dessin d'origine plutôt classique de ce qu'on apprend dans les écoles d'art.
Et enfin, pour terminer, Ken Takahama, que raconte la lanterne de Nyx, votre série qui, elle, a un contexte historique bien déterminé, on en a parlé, mais qu'est-ce qu'elle raconte du monde d'aujourd'hui, du Japon d'aujourd'hui, du regard qu'a le Japon sur l'Occident et vice-versa ?
Les jeunes japonais d'aujourd'hui lisent pas mal de mangas historiques. Mais j'ai eu envie de proposer une série qui, pour ces jeunes, leur fasse réfléchir à qu'est-ce que c'est une époque faste, une belle époque dans l'histoire.
C'est-à-dire que pour vous, une belle époque, une époque faste, c'est une époque où on est ouvert sur les cultures des autres ?
C'est un moment où l'homme a vraiment développé une technologie de plus en plus. S'est éloigné de la religion et a commencé à penser différemment les choses. Donc, grâce au développement de la science, une pensée plus libre.
Mais en même temps,
il y a aussi des choses que l'on a perdues. Tout particulièrement le Japon. Quand le pays s'est ouvert à l'étranger, a abandonné ses vêtements traditionnels. Les hommes, par exemple, se sont séparés de leurs sabres. Et j'ai l'impression qu'avec tous ces éléments-là, il y a une sorte de perte d'identité et qui s'est poursuivie.
第二次世界大戦で日本はちょっと間違った方に進んでしまいましたけど。
Et le Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou avant, s'est lancé dans une voie qui était mauvaise.
そのことがもっと強いコンプレックスを私たちに。
Et du coup, tout cet ensemble a entraîné un complexe général des Japonais par rapport à leur identité.
だからベルエポックは始まりであって終わり。
Et on peut dire que la belle époque, c'est à la fois le début d'une fin.
Et
je sens cela très fort.
Vous le sentez comment, très fort ? Vous qui êtes né en 1977, je le rappelle.
La religion
a perdu de son influence et les gens se sont mis à hésiter, à être inquiets sur la métaphysique.
Et
les personnes âgées qui pouvaient autrefois influencer ou donner des voies possibles à la jeunesse ont disparu. La jeunesse est un petit peu perdue et manque d'exemples à suivre. Oui, ils sont un peu perdus.
Vous l'êtes un peu ?
Je pense que oui, jusqu'à 40 ans, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai hésité, où j'étais perdue.
Le fait de savoir que vos bandes dessinées, Ken Takahama, sont lues un peu partout dans le monde, ça vous réconforte plutôt ou au contraire, ça vous inquiète ?
Les
deux.
J'en
suis vraiment ravie, d'un côté. Mais il y a aussi des éléments où je me dis, peut-être, il ne faut pas que je me livre trop et je veux garder une certaine intimité.
En tout cas, maintenant que je vous ai interviewé, Ken Takahama, je peux dire que vous ressemblez beaucoup à Mio, votre personnage principal, je peux le dire.
Les cheveux ?
Ouais. C'était pas vous que vous vouliez vous représenter ?
Très souvent, on me le dit très souvent, et même surtout les lectrices.
La lanterne de Nyx en France, c'est chez Glénat. Merci beaucoup, Ken Takahama, d'être passé dans le réveil culturel spécial manga. Dans quelques instants, on retrouve Sonia Deschamps qui, elle, revient du Japon.
Arigatou gozaimashita.
Merci.
私猫と一緒に
Bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour Tofik.
Alors, vous avez croisé dans les couloirs Kat Takahama ?
Que c'est agréable d'entendre parler japonais.
Ouais.
Je trouve ça beau, je ne comprends absolument rien si on ne traduit pas, mais je trouve ça d'une beauté cette langue.
Alors, ces deux semaines au Japon, c'était comment ?
C'était génial, c'était fabuleux, vous l'imaginez bien. Et je le disais,
non, je
je ne parle pas le japonais, je ne lis pas non plus le japonais. Et pourtant, je suis rentrée avec une valise... peut-être pas pleine de mangas, mais avec pas mal de mangas dans ma valise, alors même que je ne comprends pas la langue.
Ah,
c'est dire à quel point cet amour du Japon me poursuit.
Sonia Deschamps du magazine Casemate, votre sélection des trois mangas à lire en ce moment sont des mangas traduits en français qu'on peut trouver en France.
Bien évidemment, et justement, juste avant de partir au Japon, j'avais découvert une toute nouvelle série qui s'appelle Beastars et qui est publiée chez Kinun. Et en fait, en arrivant à Tokyo, j'ai découvert qu'ils en étaient en fait au tome 13 ou 14 là-bas et que c'était un énorme succès. Et vraiment, à juste titre, donc ça m'a conforté dans l'idée que la série continuait avec cette qualité que j'avais trouvée dans les premiers tomes.
Ça parle de quoi ?
L'autrice de ce manga, c'est Paru Itagaki, je pense qu'il faut en dire un mot, c'est une jeune femme de 24 ans qui en public se présente toujours avec un masque géant en forme de tête de poulet sur la tête. Vous l'avez peut-être vu à Angoulême d'ailleurs, elle était présente. Et dans Beastars, donc il n'y a que des animaux. Herbivores et carnivores cohabitent en paix au lycée Chiriton, même si leurs dortoirs sont quand même séparés, sait-on jamais. Et donc la série commence avec un meurtre, Thème qui est un alpaga et retrouvé déchiqueté, ce qui va déclencher méfiance et tension chez les élèves, vous l'imaginez bien. Tous les regards vont se tourner vers Legoshi, l'un des personnages principaux de ce manga. C'est un loup sensible et timide, mais qui en fait, au fil des albums, va avoir de plus en plus de mal à lutter contre ses pulsions carnassières. Le dessin est fin et précis, vraiment beau. On est immédiatement plongé dans l'univers de l'Institut Chiriton. Il y a aussi de la poésie dans ce manga, énormément.
Mais on ça sent fait vraiment peur que, ou pas
bah, ça fait peur, vraiment, ces moments où justement de tension, en se disant qu'il peut y avoir ces herbivores qui sont sous la menace des carnivores. Et on sent vraiment que la dessinatrice prend énormément de plaisir à les dessiner, ces animaux. Ils sont très vivants et
allez,
ils sont
rappelez-nous
complexes.
Le titre, Sonia Deschamps.
Un petit mot justement, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce manga, il parle de qui on est. Je dis qu'il y a des animaux, moi je ne suis pas fan des mangas, des bandes dessinées avec des animaux, mais ça parle vraiment de qui on est, de notre place dans la société, des peurs qu'on peut avoir et des instincts que les carnivores réfrènent pour ne pas tuer les herbivores. C'est assez passionnant.
Allez, on rappelle le titre.
Beastars de Paru Itagaki et c'est publié chez Kinun.
De toute manière, vous allez retrouver bien sûr la sélection de Sonia Deschamps en passant par franceculture.fr et en vous rendant à la page de l'émission Le Réveil Culturel. Et en numéro 2.
En numéro 2, c'est un manga que j'ai découvert au Tokyo également et j'ai craqué sur la couverture en fait, puisque je le disais, je ne parle pas japonais. Et j'ai vu cette couverture très belle avec une photo avec énormément d'herbe et une jeune fille de dos. Et j'ai craqué, alors même qu'il y avait du plastique autour du manga, donc je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et surprise, en rentrant en France, j'ai découvert que les éditions Kana venaient de publier ce manga qui en fait s'appelle Solanine et c'est Digno Asano. En fait, Kana vient de publier un recueil des deux tomes qui composent ce manga. Et en fait, c'est une histoire absolument captivante. C'est l'histoire d'un couple d'une vingtaine d'années, Meiko et Taneda, et de leurs amis. Ils viennent de commencer dans la vie active et ils vont se poser la question de ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Est-ce qu'ils veulent de cette vie-là? Est-ce qu'ils veulent vraiment travailler dans une grande entreprise? C'est le cas de Meiko. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres rêves? Dans le cas de Taneda, c'est faire de la musique, d'autres envies. On est dans quelque chose de très sobre, très simple et pourtant vraiment très très émouvant. Il y a une précision presque documentaire dans le traitement des décors. On est vraiment dans la vie quotidienne dans une banlieue de Tokyo. C'est un manga très réussi, je le disais, donc qui vient d'être publié par les éditions Kana.
Allez,
la réunion des deux tomes.
Titre.
Ça s'appelle donc Solanine et c'est Digno Asano.
Et puis enfin, en numéro 3, Sonia Deschamps.
En quelques mois, un dernier coup de cœur manga dont j'ai pu découvrir le deuxième tome en revenant du Japon, c'est My Home Hero de Masashi Asaki et Naoki Yamakawa. C'est publié chez Kurokawa. C'est l'histoire de Tetsuo Tatsu, qui est un homme plutôt tranquille, commercial dans une société de jouets, et qui va un jour découvrir que le copain de sa fille est plutôt un sale type, violent, et il va se retrouver à le tuer, sans l'avoir prémédité du tout, je tiens à le préciser. Mais du coup, il va se retrouver avec ce cadavre, il va devoir le faire disparaître, et surtout, il va devoir cacher le meurtre à sa fille, sachant qu'il l'a quand même tué dans son appartement à elle, donc ça rend l'exercice, l'entreprise assez complexe. Et c'est d'autant plus complexe que Nobuto, le garçon en question, donc il l'a tué, était en fait un yakuza, et que rapidement, eh bien, tous ses collègues, je ne sais pas si on appelle ça des collègues dans la communauté yakuza, mais donc tous ses collègues vont se mettre à le chercher, et donc on va avoir ce père de famille, a priori sans histoire, qui va se retrouver plongé dans un thriller qui est absolument captivant, plein de rebondissements et vraiment fascinant.
Merci Sonia Deschamps.
Avec plaisir.
On retrouve la sélection de Sonia Deschamps à la page de l'émission Le Réveil Culturel et on se retrouve bientôt.
Avec plaisir.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Influence, une histoire de l'art au présent, demain à 22h25 sur France 5. Cette nouvelle collection documentaire met en lumière des artistes contemporains au sommet de leur art. Découvrez le quatrième numéro, Enki Bilal, souvenir du futur. L'artiste majeur du 9e art dessine le passé, esquisse le futur entre mémoire et transmission dans son deuxième album Bug. Influence, une histoire de l'art au présent, demain à 22h25 sur France 5. Un partenariat France Culture avec le magazine d'art L'Œil. France Culture et le Centre Pompidou vous invitent au week-end Imagine. Deux jours de marathon radiophonique, de débats, de masterclass et de performances ouverts à tous. Quelle histoire ! C'est le thème de cette quatrième édition. Un festival de rencontres et d'échanges qui vous fera voyager dans le temps, de la préhistoire jusqu'à la fin du monde. Avec notamment les historiens Patrick Boucheron, Marilène Patou-Matisse, Pape Ndiaye, les scientifiques Yves Coppens, Étienne Klein, les artistes Gloria Friedman, Sébastien Salgado. Le week-end Imagine, les 11 et 12 mai, en public au Centre Pompidou à Paris et sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr, centrepompidou.fr et sur les réseaux sociaux.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 270 emplois sauvés. Dans le Nord, l'aciérie d'Ascoval sera reprise par le groupe britannique British Steel. Notre correspondant à Londres nous expliquera l'intérêt de ce sidérurgiste pour cette usine française et donc européenne. Nous ferons le point aussi sur l'ambition d'une filière européenne de la batterie électrique. Hier, Paris et Berlin ont précisé l'enveloppe de leur financement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, critiqué de toutes parts ces dernières heures après ses propos sur l'intrusion de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des vidéos indiquent qu'il ne s'agirait pas d'une irruption délibérée. Et puis la liberté de la presse dans le monde, en cette journée qui lui est consacrée, elle est de plus en plus malmenée, vous l'entendrez. L'aciérie d'Ascoval dans le Nord à Saint-Saulve a donc été reprise par British Steel. Après 4 ans d'incertitude, le tribunal de Strasbourg a décidé de confier l'avenir des 270 salariés de l'usine à ce sidérurgiste britannique. Il était le grand favori. Le groupe en profite pour améliorer son bilan carbone en essayant un peu plus son emprise déjà européenne, Antoine Gignot.
Comme son nom ne l'indique pas, British Steel est contrôlé par des Français. Deux frères, Marc et Nathaniel Meyoas, associés à un de leurs amis et qui ont racheté la société pour 1 euro symbolique en 2016 à travers un fonds d'investissement. Le groupe contrôle déjà les magasins Morrisons, la compagnie aérienne Monarch, une partie des aciéries britanniques et, en France, le site sidérurgique d'Hayange. En rachetant Ascoval, British Steel renforce donc sa production d'acier mais profite aussi de l'occasion pour faire diminuer son bilan carbone. Car la société qui fournit l'essentiel des rails de chemin de fer français et britannique emploie 4200 personnes au Royaume-Uni, mais elle utilise des hauts fourneaux qui polluent. Habituellement, elle achète des crédits d'émission de dioxyde de carbone, mais elle n'a pas pu le faire cette année à cause du Brexit. La Commission européenne a suspendu le système d'échange de quotas. Conséquence, juste avant de racheter Ascoval, British Steel a été obligé de demander en urgence un prêt de 150 millions d'euros au gouvernement britannique.
Les alliances européennes encore et cette volonté de créer un champion de la batterie électrique. Après l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens, la Commission européenne semble avoir trouvé un terrain d'entente sur ce sujet-là. Le programme est franco-allemand, il bénéficie donc maintenant du soutien principe européen. Cela s'inscrit dans le cadre des projets d'intérêt commun européen. Ils permettent aux États de verser des subventions publiques sans contrevenir aux règles européennes sur la concurrence. La France annonce donc qu'elle consacrera 700 millions d'euros sur 5 ans à ces batteries électriques. L'Allemagne 1 milliard d'euros pour cette filière. Voilà donc l'Europe en ordre de marche face à la concurrence asiatique, Annabelle Grelier.
Ce sont les industriels asiatiques qui aujourd'hui sont prédominants sur le secteur de la batterie. Tous les constructeurs européens de voitures électriques se fournissent auprès des géants chinois, coréens ou japonais. Les 5 projets d'usines de cellules lithium-ion qui sont lancés en Europe sont également asiatiques, à une exception près, celle du Suédois Northvolt. C'est dire si le retard de l'Europe dans ce domaine est important. Mais tout n'est pas perdu, surtout si l'on compte sur le saut technologique. Car la batterie lithium-ion n'est pas une technologie à ce jour complètement satisfaisante. Il faut donc investir massivement sur la recherche pour développer les batteries les plus innovantes. Concrètement, le premier consortium franco-allemand auquel devrait participer le fabricant français de batteries Saft, filiale de Total, le constructeur français PSA et sa branche allemande Opel devraient mettre en place une usine pilote en France en 2020. Devraient suivre 2 usines de production en Allemagne et dans l'Hexagone à l'horizon 2023. Des sites plus grands qui devraient produire des batteries liquide amélioré en attendant l'émergence de la quatrième génération de batteries dites solides vers 2026. D'autres consortiums européens devraient voir le jour et seront aidés par des subventions publiques. Sur les 5 à 6 milliards d'euros d'investissements nécessaires pour construire les premières lignes de production, le montant maximum des subventions publiques autorisées par la Commission européenne s'élèvera à 1 milliard 200 millions d'euros.
L'Europe encore tournée cette fois vers les élections européennes. En France, les listes complètes doivent être déposées avant ce soir 18h. 79 noms, 79 candidats seront inscrits sur chacune des listes. Elles seront ensuite validées la semaine prochaine en vue du scrutin du 26 mai prochain. En 2014, une quarantaine de mouvements avaient tenté l'expérience. Cette année, il y aura, c'est sûr, quelques changements. L'historien et géographe à Sciences Po, Olivier Kahn, note ainsi un émiettement de la gauche en France.
On a un émiettement de la gauche qui, me semble-t-il, est quand même un peu spécifique à la France. C'est-à-dire que dans les autres pays européens, là où la gauche est plurielle, comme au Portugal, elle est quand même plutôt rassemblée. Et sinon, on a deux grands partis de gauche, un parti de gauche radicale, un parti social-démocrate, mais il n'y a pas trop d'émiettement. Ça, c'est quand même une particularité de la France cette année, parce que faut pas rêver, hein. Si la gauche française envoie deux ou trois députés socialistes dans le grand groupe socialiste européen, un ou deux, éventuellement trois députés dans le groupe de la gauche radicale européenne au Parlement européen, où il va y avoir entre 50 et 55 députés, qu'elle envoie cinq ou six écologistes dans un groupe qui en comptera 55, et puis avec le Parti communiste, deux eurodéputés, en gros, ça veut dire qu'à gauche, on cherchera les députés français qui pèsent, et on les trouvera pas.
Sylvain Kahn, historien et co-auteur du livre « Le pays des Européens », il répondait à Steven Goyer. Notons que nous irons à Bruxelles dans les matins de France Culture ce matin, régulièrement entre 7h et 9h, suite et fin de notre caravane européenne à un mois des élections. Il est 6h passé de 36 minutes sur France Culture. Cette question à présent, que s'est-il passé ce mercredi 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris? Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, évoquait dès le soir même une attaque de l'établissement par des manifestants, mais dans une vidéo diffusée hier après-midi sur les réseaux sociaux, cette thèse est contredite. Le procureur de Paris a décidé hier soir de lever les 32 gardes à vue dans cette affaire. L'enquête toutefois se poursuit pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les manifestants se sont introduits dans l'hôpital. Et vous avez des précisions, David Di Giacomo?
Les manifestants que nous avons rencontrés affirment s'être retrouvés dans la cour de la Pitié-Salpêtrière pour fuir les tirs de gaz lacrymogène sur le boulevard de l'hôpital où passait le cortège. Deux portails ont été forcés, explique la directrice de l'hôpital. Dans sa plainte, que nous avons pu consulter, elle évoque aussi des jets de pierre et l'intrusion d'une centaine de personnes. Quatre vidéos ont été transmises aux enquêteurs, deux proviennent des caméras de l'établissement, deux autres du personnel, et l'une d'elles est devenue virale. On voit bien sur ces images que les manifestants courent subitement en direction d'une passerelle et d'une porte de secours pour fuir les forces de l'ordre qui arrivent dans la cour de l'hôpital. Les soignants leur crient alors que c'est la réanimation et qu'ils ne les feront pas rentrer. En deux minutes, la police évacue les manifestants dans le calme. L'entourage du ministre de l'Intérieur maintient qu'il s'agit d'un incident très grave et que ces faits sont inadmissibles.
Et face au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui parlait donc mercredi soir d'une attaque, l'opposition de droite comme de gauche demande aujourd'hui des explications. Quand l'armée tire à balles réelles sur des manifestants, cela s'est passé hier au Bénin alors que des centaines de personnes entouraient la résidence de l'ancien président pour lui témoigner son soutien. Selon des témoins sur place, l'intervention de l'armée aurait fait plusieurs morts et ce, après les premiers résultats des élections législatives dans le pays. Cette tension au Bénin ne surprend toutefois pas François Patuel, chercheur Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Pour lui, le président du Bénin, Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, avait organisé depuis quelque temps déjà sa dérive autoritaire.
Depuis quelques années, il y avait un certain nombre de textes législatifs qui ont été adoptés qui permettent les interprétations de journalistes. Il y a par exemple eu un code du numérique qui a été adopté et qui criminalise la diffusion de fausses informations. Et c'est ce code qui est utilisé à l'encontre des journalistes aujourd'hui qui traite par exemple de la dette de l'État. Il y a un journaliste, Casimir Peggio, qui a été arrêté, qui a fait plus de 5 jours en détention suite à la publication d'un article où il s'inquiétait du niveau d'endettement du Bénin. C'est ce code numérique qui a été utilisé. Il y a clairement une approche répressive, notamment contre les personnes qui expriment de la dissidence, que ce soit les opposants politiques. On a vu par exemple le 19 avril, il y a eu une manifestation auquel assistaient les deux derniers présidents de la République du Bénin, qui a été réprimé, les deux anciens présidents ont été gazés. C'est ça, cette approche, couplée avec, par exemple, la coupure d'Internet, eh bien, ce sont des dérives sécuritaires qui mettent de l'huile sur le feu.
Des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier, des violences donc au Bénin et une liberté de la presse remise en question. En ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, l'ONU rappelle au gouvernement leur obligation de respecter et de faire respecter le droit de liberté d'expression. Actuellement dans le monde, 251 journalistes sont en prison pour leur travail. Voici avec le président de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, la carte du monde qui s'obscurcit chaque année.
Il n'y a que 9% des êtres humains qui vivent aujourd'hui dans un pays où la liberté de la presse est satisfaisante ou très satisfaisante. Il y a des pays qui basculent dans l'orange. C'est le cas des États-Unis, par exemple. Et puis, il y a des pays trous noirs de l'information, c'est-à-dire des pays où l'information est totalement contrôlée. Les derniers pays au classement mondial de la liberté de la presse, c'est cette année l'Érythrée dans la Corne de l'Afrique, la Corée du Nord, suivie à la toute dernière position, à la 180e place, du Turkménistan en Asie centrale.
Si vous deviez dédier ce 3 mai à un journaliste, qui choisissez-vous ?
Je crois que c'est à Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il incarne ces journalistes assassinés. La mort de Jamal Khashoggi, qui est absolument sinistre, elle a permis à de nombreuses populations dans le monde de prendre conscience de la violence qui peut être infligée à des journalistes au Moyen-Orient, mais aussi sur d'autres continents.
Christophe Deloire avec Nadine Epstein. Le temps de ce vendredi, il sera marqué en France par de la pluie et de la fraîcheur sur une grande partie du pays. Des averses vont traverser des Pyrénées jusqu'à la frontière franco-belge. Comptez ce matin 10 degrés à Besançon, 12 à Lille, Nantes et Bordeaux, 14 à Lyon et à Paris, 17 degrés à Nice. Il est 6h passé de 40 minutes, 6h40 très exactement. C'est l'heure du journal des idées sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, vous vous penchez ce matin sur la notion de paysage. Elle est récente, cette notion. Le mot n'apparaît en français qu'en 1549. Exactement. 1549, je vais y arriver. Une notion qui désigne une étendue de pays. Aujourd'hui, Jacques, elle est intimement liée à notre relation sensible à la nature.
Eh oui. Paysage, village, bocage, alpage, rivage et même visage, tous ces mots en « âge » portent une charge émotionnelle particulière. Ils expriment des sensations médiatisées par des valeurs ou des souvenirs. C'est la remarque inaugurale que fait Martin de la Soudière dans le livre qui vient de paraître chez Anna Mosa sous le titre « Arpenter le paysage », poète, géographe et montagnard. L'ethnologue de la France rurale, auteur notamment d'une poétique du village, a rassemblé ses souvenirs de randonnée en montagne, ses notes de terrain et ses moments de lecture pour ébaucher une réponse à cette question. Comment entre-t-on en paysage? Avec quels effets sur les sens ou la vue et sur le rendu de chacun dans son rôle, paysagiste ou poète, peintre ou géographe. Un livre polyphonique donc à la mesure de son sujet, de ceux qui, comme l'affirmait Julien Gracq dans les carnets du Grand Chemin, ne s'éveillent sous les doigts qu'à la manière des grandes orgues grâce à la superposition de multiples claviers. L'auteur est un habitué de la montagne avec une prédilection pour le Massif central et les Pyrénées. Que nous fait un sommet ? Demande-t-il. Il y a l'aspect d'abord personnel de la performance. Tout sommet émarge à un registre moral. Il se mérite, il a à voir avec le ciel. Pour le paysagiste, ce sera l'achèvement de la forme. Pour le poète, le sentiment de se tenir au bord de l'horizon. À tous, il produit un sentiment de plénitude et de pouvoir, celui de toiser toute une région après avoir eu jusqu'ici laborieusement à l'arpenter. Ascension, élévation. Quand tu es parvenu au sommet de la montagne, continue à monter, dit un proverbe chinois. Qu'est-ce qui nous parle dans un paysage, s'interroge Julien Gracq. Tout ce qui, dans la distribution des couleurs, des ombres et des lumières, y fait une part plus apparente aux indices de l'heure et de la saison. D'où le fait que le paysage minéralisé par l'heure de midi retourne à l'inertie du regard, tandis que le paysage du matin et plus encore celui du soir atteignent à une transparence inaugurale, où si tout est chemin, tout est aussi pressentiment. L'écrivain se demande aussi quel est le motif de la quête qu'il entraîne au long du chemin. Quelquefois, il m'a semblé que j'y poursuivais le règne enfin établi d'un élément pur, l'arbre, la prairie, le plateau nu à perte de vue, afin de m'y intégrer et de m'y dissoudre. Parmi les compagnons de route de Martin de la Soudière, il y a également Jean-Loup Trassard et Philippe Jacotet, Pierre Sansot, André Dautel ou encore le voyageur immobile Fernando Pessoa. Ce qui les distingue des écrivains voyageurs qui voyagent pour écrire, c'est qu'eux écrivent pour voyager et nous embarquent dans leur périple intérieur. La parole est une compétence naturelle, générique. L'écriture est une technique. Ce qu'est l'écriture à la parole, le paysage l'est à l'environnement. Le soleil se couche et se lève chez moi, disait Corot, qui donnait aussi ce conseil. Avant de peindre un paysage, il faut savoir s'asseoir. L'épopée discrète de ceux qui travaillent sur le motif, d'après nature et en plein air, est évidemment présente dans l'album de Martin de la Soudière. Le paysage a fait de moi un peintre, confiait Constable. Dans un livre publié au Seuil sous le titre Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature, Romain Bertrand évoque la difficulté à trouver les mots pour dire le plus banal des paysages. Un pré déjà nous met à la peine que grêle l'aigre moine, le cirse et l'encolie. L'historien s'est mis en quête de cette langue perdue au temps où Goethe caressait avec Humboldt et d'autres le rêve d'une histoire naturelle, attentive à tous les êtres, des lichens aux coléoptères ou aux oiseaux. Que la nature en vous balbutie son mystère, écrivait-il dans l'élégie de Marion Bade. La peinture de paysages s'autorisait alors des forces combinées de la science et de la littérature pour s'élever au rang d'un savoir crucial. À preuve, parmi de nombreux autres, le cas du bourlingueur polyvalent, reporter de guerre, qui suppléait sur le terrain aux difficultés de la photographie naissante par un don certain pour le dessin, Louis Tiner, chargé lors de l'exposition universelle de 1900 de réaliser une fresque sur la prise de Madagascar. Le problème qui se pose à lui est de représenter le ciel, 120 mètres de dais d'azur à peindre. Pour obtenir la vibration lumineuse du bleu du ciel, il fait disposer une série de pointillés dans une déclinaison de tons en gradation. La revue L'Alpe s'est exceptionnellement délocalisée dans les Pyrénées pour voir une réserve internationale de ciel étoilé. Le label a été décerné en 2013 au pic du Midi. La pollution lumineuse y est réduite et le télescope de l'observatoire peut scruter à l'aplomb des astres les avatars du trou dans la couche d'ozone, les pluies acides ou encore les gaz à effet de serre. Il arrive un moment où c'est l'environnement qui écrit le paysage. Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, Venezuela, Iran, Corée du Nord, quel est le point commun entre ces trois pays? Eh bien, c'est la politique américaine,
c'est
de
ça.
Pression maximale.
Ils sont sous pression, des sanctions totales contre l'achat de pétrole iranien qui sont entrées en vigueur depuis hier, la pression sur les banques chinoises qui s'accroît pour révéler leurs transactions avec la Corée du Nord, hier également. Au Venezuela, la montée en tension à Caracas a été précédé d'un embargo de Washington sur le pétrole. Dans ces trois cas, effectivement, la Maison-Blanche invoque une stratégie de pression maximale. Alors, toujours une forme d'interventionnisme. On voit ça avec vous, Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone depuis Tunis. Vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de Requiem pour le monde occidental sur la politique étrangère de Donald Trump. Pression maximale donc énoncée plusieurs fois sur ces derniers mois par les officiels de la Maison Blanche au sujet de la Corée du Nord, de l'Iran, du Venezuela. Pression économique et judiciaire peut-être à défaut d'une intervention militaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la ligne directrice de Donald Trump en matière de politique étrangère?
Oui, tout à fait. C'est presque une nouvelle stratégie. Donald Trump, finalement, fait le bilan de ce qu'on appelle l'hégémonie libérale, le fait d'intervenir militairement pour imposer la démocratie. Ça a été un échec en Irak, ça a été un échec en Libye. Et donc, il veut passer à l'autre genre. Il ne veut plus risquer les vies de soldats américains parce que ça coûte cher, c'est impopulaire chez lui. Mais il veut, par contre, pouvoir offrir le scalp de quelques régimes avant les élections de 2020. Et il y a des régimes qui sont honnis par son public, par son électorat, notamment le Venezuela, l'Iran, bien sûr, au premier rang, Cuba également, et puis la Corée du Nord. Il veut aussi pouvoir dire qu'il a obtenu ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait obtenu, à savoir la dénucléarisation. Et donc, il met de côté l'action militaire pour mettre à fond l'action économique, l'embargo, et profiter du caractère extraterritorial de la législation américaine pour faire en sorte un chantage pays pour les obliger à suivre sa politique.
Et alors justement, contre cette idée d'être le gendarme du monde, une autre manière d'être le gendarme du monde, ou simplement, comme vous disiez, offrir le scalp de ces régimes, c'est-à-dire cette stratégie, est-ce qu'elle a d'abord une vocation intérieure ou une vocation de polisser le monde, comme les prédécesseurs de Donald Trump?
Alors en fait, à chaque fois que Trump fait quelque chose en politique extérieure, c'est à des fins de politique intérieure. Il veut convaincre ses électeurs, il veut être réélu en 2020, et quoi de mieux de dire qu'il a obtenu un changement de régime, qu'il a fait tomber le régime d'Imola, ou qu'il a fait tomber Maduro, ou qu'il a fait tomber l'héritier de Castro, ou même qu'il a obtenu donc la dénucléarisation de la Corée du Nord, ce que aucun de ses prédécesseurs depuis la fin de la guerre froide avait obtenu. Et ça serait pour lui un triomphe. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une certaine cohérence dans sa doctrine, puisque la France avait pu s'opposer avec l'Allemagne très fortement à la guerre d'Irak, mais là, eh bien, les compagnies françaises ont quitté l'Iran. Et donc, il est beaucoup plus difficile de s'opposer à cette stratégie qu'il était possible de s'opposer à l'ancienne stratégie militaire du temps des ex-présidents américains.
Et alors justement, qu'on prenne un peu certains de ces cas. Le Venezuela, par exemple, donc nouvelle tension là, cette semaine à Caracas. Cet embargo des États-Unis sur les achats de pétrole vénézuélien pour étrangler encore plus le régime. Pas mal de critiques et de doutes sur, d'une part, l'efficacité de ces sanctions. Est-ce qu'elles nuisent vraiment aux officiels du régime? Et puis surtout, la question de la menace militaire. Plusieurs fois, Donald Trump a répété que toutes les options étaient sur la table, parallèlement aux sanctions économiques. Quel rôle elles jouent, ces menaces militaires? Elles sont amenées à avoir une effectivité, selon vous?
Alors, on ne peut pas complètement l'écarter, parce qu'il y a une vieille tradition d'intervention militaire américaine en Amérique latine. Et d'ailleurs, c'est le seul cas, parce que dans le cas de l'Iran, dans le cas de la Corée du Nord, encore plus, bien sûr, vu que la Corée du Nord est un pays nucléaire, et même dans le cas de Cuba, Donald Trump n'agite pas la menace militaire. Là, il l'agite, c'est certainement pour faire pression sur les militaires vénézuéliens, pour les amener à se ranger du côté du président autoproclamé. Mais il y a quand même un risque important pour les soldats américains à intervenir. Donc on peut penser que la part de chantage est plus importante que la part de menace réelle. Mais on voit bien effectivement que dans tous les cas, et quelles que soient les conséquences sur le long terme, il veut mettre économiquement tous ces régimes à genoux en pensant, en faisant le pari suivant, la population va se révolter parce que les régimes ne pourront plus fournir les services de base à la population, et donc ça va être le chaos constructif. Les Iraniens vont se révolter contre les Mollahs, les Cubains contre l'héritier de Castro et les Vénézuéliens contre Maduro, parce qu'ils seront exsangues, parce qu'ils n'auront plus les moyens d'avoir de la nourriture, d'avoir un ravitaillement. Et donc c'est vraiment une sorte de stratégie d'étranglement par l'économie et non plus l'intervention militaire directe à l'ancienne.
Et cette stratégie d'étranglement, elle est menée par Donald Trump uniquement ou quasiment uniquement, ou est-ce qu'elle est soutenue autour de lui? Parce que dans un article récemment, là, le kit ou double de Donald Trump que vous avez écrit pour l'Iris, vous citez une étude américaine qui est intéressante parce que elle pointe non seulement peut-être parfois l'inefficacité de ce genre de sanctions, mais aussi des effets négatifs indésirés, par exemple sur les prix mondiaux, ou même le fait qu'elle inciterait certains gouvernements à les contourner, ces sanctions, finalement.
Oui, bien sûr, dans le cas du... Puisque le Venezuela et l'Iran sont d'importants producteurs de pétrole, cela va faire monter les cours du pétrole, ce qui peut satisfaire les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis qui ont besoin d'un cours haut pour être rentable, mais ce qui va jouer sur les prix et ce qui va surtout jouer sur la reprise économique. Et puis, le risque à long terme, c'est ce que pointe cette étude, en effet, c'est que les pays qui sont un peu sous le choc pour l'instant, on voit finalement la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont créé un véhicule spécial pour continuer à commercer avec l'Iran, mais les grandes compagnies, Total, Air France, Peugeot, ont quitté l'Iran. Et donc, même si les pays sont sous le choc, ils sont un peu contraints, bon gré malgré, de suivre les Américains, à terme, sur le moyen long terme, ils vont s'interroger. Est-ce qu'on doit continuer à payer tout cela en dollars? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est normal de payer les Airbus en dollars? Est-ce qu'il est normal de payer notre pétrole en dollars? Et donc, à terme, ça peut être le rôle du dollar comme monnaie internationale qui pourrait être en cause. Lors du dernier forum de Valdaï en octobre dernier, Vladimir Poutine avait tout à fait mis en garde contre cela en disant qu'il fallait souhaiter une dédollarisation de l'économie internationale. Et on peut penser que les Chinois auront quand même du mal à accepter de ne plus acheter du tout du pétrole en Iran et qu'ils vont certainement pousser pour de plus en plus pousser leur propre monnaie comme monnaie du commerce international ou du moins de leur propre commerce international.
Oui, ce forum de Valdaï sur les investissements énergétiques, vous concluez l'article en disant que le test, ce sera de voir si prochainement il y a des achats en pétrole qui seront facturés dans une autre monnaie que le dollar. Donc ce serait envisageable en dehors des opérations de troc qui peuvent exister déjà pour le pétrole.
Bah oui, effectivement, c'est juste l'usage, la facilité, l'habitude, une sorte de paresse intellectuelle ou de paresse stratégique qui fait que les grands opérateurs achètent le pétrole en dollars. Il y a régulièrement des tentatives pour dire ah, tiens, on pourrait faire autrement, mais qui ont pour l'instant été qui ont échoué ou qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout parce qu'effectivement le dollar est abondant, il est facile à trouver, on est habitué à échanger en dollars, mais par rapport en fait à ce chantage de Trump et par rapport au fait qu'il c'est une atteinte directe non seulement à la souveraineté de l'Iran, du Venezuela ou de Cuba, mais c'est aussi une atteinte à la souveraineté des pays qui veulent commercer avec ces autres pays, notamment l'Union européenne doit choisir si elle doit continuer à courber les Chines ou à obéir ou à défendre sa souveraineté parce que là, les États-Unis traitent les pays de l'Union européenne comme un peu l'Union soviétique en son temps traitait les pays du pacte de Varsovie en disant on a décidé quelle était cette politique vis-à-vis de l'Iran ou de Cuba, vous n'avez pas le choix, vous devez la suivre, sinon ça sera des sanctions dont vous aurez du mal à vous remettre.
Et oui, c'est tout le problème de cette extraterritorialité, effectivement, des sanctions américaines. Alors, un cas d'école concernant cette pression maximale, c'est peut-être la Corée du Nord, cas d'école parce que c'est là que Trump s'est le plus engagé sans doute et que c'est là qu'il est le plus critiqué. Le New York Times parle de fiasco nord-coréen parce que la Corée du Nord justement contourne assez aisément certaines des sanctions en échangeant du charbon contre du pétrole, parce que Trump a été obligé de reculer sur certaines sanctions, ce qui fait que les démocrates l'accusent d'être d'une naïveté insensée. Vous pensez que c'est le cas ou que juste le calcul est à très long terme ?
Bah, disons qu'à court terme, je rentre de Corée du Sud et les Sud-Coréens sont assez inquiets. Trump pense aussi que Kim Jong-un veut moderniser son pays et qu'il n'a pas le choix que de céder l'arme nucléaire en échange d'une ouverture économique. Et que donc, en mettant, là encore, les pressions maximales, il va amener Kim à céder. Sauf que Kim Jong-un veut surtout survivre et qu'il pense que si Kadhafi ou Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, il serait encore en vie et au pouvoir et donc il n'a guère envie de renoncer à l'arme nucléaire. Et les Sud-Coréens sont très inquiets de cette politique un petit peu d'incendiaire, de pyromane que Trump fait. Les Sud-Coréens, comme d'ailleurs les Chinois, ont plutôt envie d'un atterrissage en douceur du régime nord-coréen et de les arrimer au fur et à mesure à l'économie internationale, un peu comme l'Allemagne de l'Est avait été arrimée par l'Allemagne de l'Ouest dans un passé assez lointain, post-très-guerre froide.
Et de ce point de vue-là, il s'est mis face à Kim Jong-un en position de faiblesse ou alors dans une impasse en ne cédant pas assez justement sur les sanctions ou en cédant trop. Dans quel sens vous pencheriez ?
Oui, bien sûr. Il a cédé dans la mesure où il a accordé à Kim ce qu'il voulait obtenir, un sommet. C'est une grande réussite à la fois de prestige et de popularité interne pour Kim Jong-un. Et puis, simplement, ni les Chinois ni les Sud-Coréens n'ont envie de voir le régime nord-coréen s'effondrer parce que c'est eux qui auraient à gérer cela. Et les Sud-Coréens savent très bien qu'en cas de réunification trop rapide, ils n'ont pas les moyens d'assumer cette réunification. L'écart entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est bien plus important que l'écart entre les deux Allemagnes, et il y avait 4 Allemands de l'Ouest pour nourrir ou pour aider un Allemand de l'Est, il n'y a que 2 Sud-Coréens pour intégrer un Nord-Coréen, et donc ils veulent surtout, non pas du tout, le chaos auquel Trump peut prétendre pour faire céder Kim Jong-un et le régime nord-coréen.
Donc globalement, cette pression maximale, que ce soit pour obtenir un changement de régime ou gagner une sorte de bras de fer, hein, comme on dit, avec le régime, jusqu'ici, sans efficacité ?
Rien. Disons qu'il compte bien qu'un de ces régimes tombe d'ici 2020 et on ne peut pas effectivement l'exclure. Après, il faudra savoir la façon dont ça se passe. Les Mexicains souhaitaient plutôt une médiation entre l'opposition au Venezuela et Maduro. Eh bien, Trump, lui, veut plutôt dire qu'il a, une fois encore, obtenu la tête de Maduro. Alors peut-être qu'il obtiendra avant sa réélection, mais il est peu probable que cela amène à un Venezuela stable et prospère.
Oui, les gens ont faim, ajouté Donald Trump hier. Bah écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Pascal Boniface, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la triennale Gigantisme, art et industrie à Dunkerque. La triennale explore les relations entre art et industrie et dresse des ponts entre la création et l'économie. Sur 4000 mètres carrés, elle présente plus de 200 œuvres, peintures, sculptures, films, performances, ainsi que des productions créées pour l'occasion autour de trois lieux emblématiques de Dunkerque. La friche industrielle de la halle AP2, le frac Grand Large Hauts-de-France et le lac avec des résonances en région. Gigantisme, art et industrie, du 4 mai au 5 janvier à Dunkerque. Un partenariat France Culture. Inédit, l'amie prodigieuse sur France Culture. L'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Deux héroïnes inoubliables. La timide Elena, fascinée par l'aplomb, la révolte de la sauvage Lila. Proches, contraires, leur destin croisé. Suivons-les.
Il faut que tu continues tes études.
Mais j'ai fini.
Si au lieu de réparer les chaussures des autres, tu fabriquais des chaussures neuves.
Traduite dans le monde entier, la saga d'Elena Ferrante, d'une puissance littéraire inédite dans le paysage de la fiction, Amira Khazar dans le rôle de la narratrice.
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie. Un point, c'est tout.
Le feuilleton, du 6 au 17 mai à 20h30 et sur franceculture.fr.
Et non, ne soyons pas nostalgiques, il est 6h59 sur France Culture, l'heure des matins avec Florian Delorme. Bonjour Florian.
Bonjour Xavier. Et nous allons revenir ce matin sur les violences qui ont émaillé les manifestations du 1er mai, car même si elles ont été globalement contenues par les forces de police, il y a quand même eu ça et là des dérives, des points de cristallisation de la violence, voire carrément des scènes de chaos, notamment autour de l'hôpital de la Salpêtrière, mais aussi à Montparnasse, où à cause des Black Blocs, les syndicats n'ont pas pu lancer le défilé, comme c'est la tradition lors de la fête des travailleurs. Alors d'où vient cette violence? Comment comprendre ce phénomène Black Bloc? Comment s'inscrit-il aussi dans une histoire plus profonde des mouvements autonomes contestataires? Quelles idéologies aussi structurent ces groupes? On recevra tout à l'heure Sylvain Boulou, qui est historien, et puis en deuxième partie également Anne Muxel, qui nous parlera de la politisation de la jeunesse. Bon réveil à tous, il est 7h sur France Culture.